chers amis, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Stéphanie de Saint-Léon pour parler d'une propriété. Vous savez que cette émission qui s'appelle Art Bâton Rompu, pardonnez-moi du jeu de mots, mais il veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on parle d'art et puis on parle de sujets périphériques mais qui ont un trait direct avec justement le patrimoine. On va parler du patrimoine. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Olivier, bonjour voilà. À tous.
Stéphanie, on se connaît grâce à cette belle école de Saint-Dominique au PEC, avec nos enfants et peut-être, en ce qui me concerne, bien sûr, mes petits-enfants, nos petits-enfants. Et j'ai choisi de vous faire venir pour qu'on parle du patrimoine touristique. Et le mot touristique est fort et peut-être un peu trop général. Et donc, nous allons parler de votre propriété. Cette propriété qui est le château de Trécesson, qui est bien sûr à côté de la forêt de Pimpon-Brocéliande, forêt mythique, forêt historique. Et ce château a fait l'objet d'un classement de monument historique en 1922, si je ne me trompe pas, avec les éléments que j'ai de Wikipédia. Et ces abords du château et du domaine ont été inscrits en 2012. Chère Stéphanie, vous allez nous parler donc de cette belle propriété et dont vous avez acquis cette propriété par passion d'abord, je crois, et assez récemment, oui. Si je puis dire.
Alors déjà, pour la situer un petit peu, pour nos auditeurs, on est situé, si vous tracez un trait entre Rennes et Vannes, on est pile au milieu, donc effectivement dans la forêt de Brocéliande, comme vous le disiez. Et ce château, c'est un gros coup de cœur en fait. C'est un gros coup de cœur en 2022 avec mon mari. On cherchait à trouver un grand terrain. Alors rapidement, on s'est rendu compte que qui disait grand terrain disait grosse propriété. Ce n'était pas l'idée de départ, mais finalement...
Vous vouliez construire ?
Non, juste un grand terrain parce qu'en fait, on a des ruches, des abeilles. Et on était sur le front de mer, dans le coin assez balnéaire de la presqu'île de Guérande. Ah ouais. Et donc, le jardin ne suffisait plus. Donc, c'était ça l'idée de départ. Et depuis 2018, on va dire à peu près, on cherchait activement un grand terrain. Donc, forcément, il fallait s'éloigner un petit peu du littoral. Et on a visité beaucoup de propriétés. Vraiment, c'était une longue quête. Des propriétés qui étaient absolument parfaites, il y avait juste à arriver avec des valises, à poser ses affaires et à s'installer, mais la magie ne prenait pas. Et en fait, on est tombé sous le charme de Trécesson, pour son côté à la fois très pittoresque. On est dans un vallon, il y a des douves en eau tout autour, donc on voit une énorme, enfin très, très large devant le château, donc ça fait presque comme un étang devant, cette grande pièce d'eau. Et surtout, la caractéristique de Trécesson, c'est d'être resté très homogène. En fait, il y a toutes les corps de ferme autour, tous les bâtiments appartiennent toujours au domaine. Il y avait un peu moins de 200 hectares. De la lande, de la forêt, des terres agricoles. Donc vraiment un panel très très riche de plein de choses. Donc en fait, ça nous a tout de suite plu, le côté très stimulant de ces possibles incroyables qui s'ouvraient devant nous.
Vous êtes donc tombé sous le charme à la fois de la propriété bâtie et puis évidemment l'environnement avec l'eau tout autour du château, qui est un château du 15e siècle, on va donc en parler,
voilà.
À bâton rompu. Et donc vous avez acheté cette propriété qui était à vendre, donc en quelle année vous dites ?
En 2022.
2022.
Alors on sortait, je vous rappelle, de l'épisode Covid, et une caractéristique que l'on recherchait aussi, c'est de ne pas avoir de voisins immédiats. Parce qu'on avait souffert sur le littoral pendant le confinement du voisinage pesant qui appelle la gendarmerie pour ci, pour ça. Les dénonciations, c'était cru en 44. Et donc, on s'est dit, mon Dieu, les voisins, ça peut vraiment être un cauchemar. Il faut être loin de tout.
Et puis, en plus, ça va avec une famille nombreuse. Vous avez 6 enfants.
Voilà, c'est ça.
Qui ont entre quel âge et quel âge ?
Alors, on en a une qui est déjà au ciel, donc qui est peut-être au milieu de ce studio en train de nous écouter
en
riant.
On peut penser à elle.
Voilà.
On va dédier cette émission à cette petite fille. Comment s'appelait-elle ?
Rita. Voilà, donc Rita du ciel. Et puis, donc ça, c'est la petite dernière. Et puis, l'aînée à 27 ans.
Ah oui, donc pourquoi je vous pose cette question ? Parce que quand on achète une propriété comme ça, je pense qu'on n'est pas seul. On se dit qu'on va évidemment passer son patrimoine et donc à un moment ou à un autre, on passera ses enfants. Et là, vos enfants sont tombés sous le charme ?
Alors oui, mais là, je mettrai un petit bémol. C'est d'abord un projet de couple. On l'a vraiment pris comme ça avec mon mari et on n'a pas voulu du tout forcer les enfants à s'impliquer. S'ils le font à leur dosage à leur, selon leur bon vouloir, on va dire.
Mais ils étaient heureux quand vous avez découvert ça, ou ils ont été surpris, ils ont... Parce que c'est quand même un changement de vie, puisque vous y habitez toute l'année.
Voilà. En fait, des changements de vie, mes enfants sont hautement habitués à ça, parce qu'on a vécu 17 ans à l'étranger, de pays en pays. On a passé je crois que la plus grande période, c'était 3 ans au même endroit. Donc, on a été des grands nomades. On a été habitués tout le temps à réapprendre. Justement, je disais toujours, quand on arrive dans un autre pays, on réapprend à marcher et à parler comme un petit. Voilà, il faut réapprendre les cultures, il faut réapprendre les règles de vie, les magasins qui ferment à telle heure, enfin, toutes les habitudes. Donc, finalement,
c'était à nouveau.
C'est ça, finalement. C'était un peu cette même logique. Et les enfants ont vécu dans des pays où on ne parlait pas le français, où voilà, toutes les cultures étaient différentes. Donc, ils se sont habitués. Et donc, le changement, ils connaissaient. Et après tout, ils étaient ravis, je crois, de se lancer dans cette nouvelle aventure.
Qu'ils pensent que c'était encore une autre aventure.
Mais voilà, c'est forcément une aventure. Voilà. Avec un vrai grain de folie. Parce que le fond du sujet, c'est aujourd'hui pour se lancer dans ce type d'aventure. Vous savez, c'est un peu la phrase de Sacha Guitry, le mariage, c'est régler les problèmes à deux qu'on n'aurait jamais eu si on était resté seul. Bon, eh bien, se lancer dans le patrimoine, c'est un petit peu la même chose. Oui. C'est aussi aller au-devant de problématiques que l'on n'imagine même pas au départ. Et voilà, donc il faut avoir une certaine forme de naïveté, il faut être gonflé à l'hélium et avoir une bonne résistance aux ascenseurs émotionnels qu'il faut parcourir dans ce parcours du combattant, justement.
Donc, vous achetez cette propriété, et dans quel état? Puisque je crois, vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, que ça n'avait pas été habité ou entretenu depuis plus de 20 ans.
C'est ça, en fait, les derniers travaux concernaient l'extérieur des bâtiments, en l'occurrence le colombier, il datait de 2013, donc c'était vraiment ce qu'il y avait de plus récent, mais avant, en fait, il y avait une indivision qui ne s'entendait pas du tout, comme souvent ça arrive, et donc ces propriétés ont vraiment besoin qu'on soit là en permanence. Il faut y être à demeure. D'ailleurs, les assureurs refusent, si on n'est pas en résidence principale, d'assurer ce genre de propriété parce qu'il se passe tout le temps des choses, des voies d'eau soudaines qui apparaissent là où avant tout tenait bien. Il faut toujours être attentif. Et puis, bien sûr, faire tout le petit entretien au long cours, sur les fenêtres, sur les étanchéités. Une maison part vite en capilotade si on n'est pas très attentif, surtout ce genre de maisons qui ont toute une histoire. D'ailleurs, je peux vous raconter brièvement un petit peu l'histoire de ce château.
Justement, j'allais vous parler de cette superbe propriété où on accède par un pont qui enjambe une douve, donc vous allez pouvoir nous situer un petit peu pour qu'on ait l'envie, chers auditeurs, d'aller voir ce très beau château de Trécesson. Je vous rappelle qu'on commence cette émission avec Stéphanie de Saint-Léon, propriétaire avec son mari et peut-être aussi ses enfants. Je ne sais pas si c'est une SCI, on n'en parlera pas, on n'a pas besoin de savoir. Simplement, nous avons des amoureux du patrimoine, des fous du patrimoine et des audacieux du patrimoine. Le terme audacieux, nous allons en reparler après. Mais on peut peut-être commencer par la propriété. Alors, donc ça se situe quoi? C'est vers Guerre? C'est vers...
Alors justement, vous avez mentionné tout à l'heure le classement qui apparaît très tôt, en 1922.
Oui, 22.
Eh bien justement, parce qu'on est... La propriété était limitrophe du camp militaire de Saint-Cirquet-de-Quidan. Et elle avait la fâcheuse tendance à exproprier de plus en plus de terrain autour. Il y a des châteaux qui ont été pris justement dans l'emprise
par le camp militaire.
Par le camp militaire, des chapelles, des villages entiers.
Vous êtes loin ?
Et en fait, on est voisins. On a une frontière commune.
Elle est à combien de kilomètres ?
1 kilomètre. Au bout de notre allée cavalière, bam, on tombe sur le camp militaire. Donc on peut dire qu'on les entend tirer, s'entraîner de temps en temps. Alors justement, la première fois qu'on est arrivé sur place, on entendait tirer de partout. On se dit, mais non, les chasseurs dans le pays, ils sont quand même énervés. C'était la première impression auditive du secteur.
Parce qu'ils sont sur un terrain de combien, Côte-Quidan ?
C'est énorme. Je crois que c'est 5000 hectares. Ouais. C'est des énormes...
Ils ont pas mal exproprié, mais ils sont arrêtés à 1 kilomètre de chez vous.
Voilà. Et alors, en fait, parce que à l'époque, le comte de Prunelet, c'était lui qui était le propriétaire du moment, va demander le classement pour empêcher. Il aura... Alors, quand même, la propriété a été expropriée d'un certain nombre de terres, dont le manoir du Pied d'Anon, qui donne lieu à une légende importante pour le château, qui se retrouve aujourd'hui dans l'enceinte du camp militaire, mais on l'aperçoit quand même du château. Et donc, voilà, il a voulu stopper cette progression.
Grâce à cette disposition de 1922.
Exactement, voilà.
D'où le classement est important, chers auditeurs, si évidemment les auditeurs de Radio Courtoisie ont une belle propriété à classer et il faut vraiment
se mobiliser
et puis se renseigner auprès de, bien sûr, notre chère Stéphanie de Saint-Léon qui est passée par ses affres, entre guillemets, ou tout au moins l'expérience de ce qui a été fait en juin 1922.
Voilà, alors le classement, c'est plus aujourd'hui s'il y a des projets d'éoliennes, par exemple.
Ah oui, vous avez ça aussi.
La co-visibilité. Non, nous, on n'a pas ça, grâce à Dieu. Mais beaucoup de beaux sites, de sites patrimoniaux ont affronté cette problématique-là. Et c'est vrai que le classement permet quand même de sauvegarder, enfin en tout cas de préserver au maximum. C'est un peu la dernière carte que l'on peut jouer, vu les procédures assez accélérées maintenant pour tous ces projets, effectivement.
Oui, quand on voit dans la baie de Saint-Brieuc maintenant les éoliennes, M. Macron n'en a pas mis devant le Touquet.
C'est
une observation. Uh-huh. C'est... Peut-être
étrange.
Qu'il n'a peut-être pas eu cette imagination-là. Il en a eu beaucoup parce qu'il fait du en même temps. Mais je ne vais pas faire du en même temps en politique parce que ce n'est pas du tout le but. Mais par contre, le classement, oui, ça c'est important.
Oui.
Et aujourd'hui, on va parler bien sûr, toujours à bâton rompu, de la Fondation du patrimoine. Vous avez peut-être des rapports, je pense que vous en avez eu d'ailleurs avec Stéphane Bern qui est venu vous voir. Je pense que aujourd'hui, on peut le saluer, c'est un bon soutien pour, entre autres, ce genre d'opération. Donc, parlez-nous du château.
Alors, le château, en fait, il est construit sur un ancien site seigneurial dont on trouve la trace dans le cartulaire de Redon qui date du 9e siècle, avec à l'époque une femme très puissante, une mafierne qui s'appelle Rohindrette.
Une
mafierne. Alors, c'est le nom des potentats, on va dire, dans le duché de Bretagne avant le rattachement à la France et qui donc, a laissé des écrits. Et alors, va être construit au XVe siècle par Jean IV de Trécesson, le château tel qu'on le voit aujourd'hui, donc sur cet ancien site seigneurial. Alors la légende ou le bouche à oreille veut qu'on ait creusé les douves en sortant ces pierres de schiste rouge. Donc le château est construit en grand appareil de schiste rouge. On les aurait récupérées sous les douves, parce que le château n'a pas de cave, il est vraiment posé sur la roche. Et alors c'est une des caractéristiques donc, de Trécesson, c'est d'être fait dans ce schiste rouge. Alors le schiste rouge, c'est de la famille de l'ardoise, c'est une pierre très fragile.
Oui,
c'est
friable.
Friable, exactement, qui part vite en feuillette. Donc pour un château fort, c'est quand même assez surprenant comme choix. Mais en fait, on n'est pas du tout, si vous regardez une carte, dans la région des Marches de Bretagne, vous savez, cette limite entre le duché de Bretagne et la France, où là, il y avait lieu d'avoir énormément d'affrontements entre les différentes troupes. Donc, on est dans une zone, on va dire, quand même relativement calme de la Bretagne. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est que Jean de Trécesson, lorsqu'il fait construire ce bâtiment avec une allure quand même très défensive, il va demander une exemption, enfin une autorisation spéciale du duc de Bretagne. Alors, il est bien placé, il est chambellan et connétable du duc, donc il est un petit peu dans ses petits papiers. Donc, il aura cette autorisation. Et en fait, c'est par goût personnel qu'il fait cette structure très défensive. Alors qu'en fait, il n'y avait pas absolument raison de crainte particulière. Et il aimait tellement ça qu'à l'intérieur même de la cour d'honneur, il a rajouté des mâchés-coulis et un tour de garde. Ce qui évidemment...
Les Anglais n'étaient pas venus par cette région-là. Pourtant, ils étaient là depuis un moment.
Oui, mais au XVe siècle, il n'y avait pas vraiment de
ils étaient plus intéressés par le sud de la France,
voilà,
le sud-ouest de France.
C'est ça, la chère Guyenne.
Voilà, la chère Guyenne.
Dont je suis originaire d'ailleurs, je ne suis pas une Bretonne.
Bon, votre époux l'est.
Je suis une transfuge, voilà, oui,
voilà,
mon
voilà,
mari l'est.
Bon, mais sans ça, on n'aurait pas tressé son.
Voilà. Et donc, le château, grâce à Dieu, n'a pas eu à subir trop d'attaques violentes, sinon il ne resterait plus grand-chose de cet appareil assez fragile. Il n'y a eu qu'une échauffourée, qu'une page de bataille à Trécesson pendant la guerre de la Ligue. En fait, c'est un des seuls châteaux, alors à l'époque tenu par Françoise de Trécesson, qui est veuve, et qui va prendre la défense, la position du roi de France, contre l'avis du duc de Mercœur, qui est soutenu à 99% par tous les Bretons. Alors, comme elle est fine mouche, elle se doute que c'est pas très confortable d'être la seule en Bretagne à défendre la position du roi de France. Et donc, elle lui demande une petite troupe, ce que le roi de France lui concède très généreusement. Et un capitaine, Breil de Pontbriand, va venir défendre donc Trécesson. Les ligueurs, ne le sachant pas, vont arriver pour se battre et vont tirer un boulet de canon. Donc, on a la trace du boulet de canon près de la porte. Et à leur grande surprise, quand ils voient débouler Pontbriand et ses gendarmes, ils sont partis.
Ils sont partis.
Ni une ni deux. à toute vitesse, en pensant faire qu'une bouchée de la petite veuve qui, tenait, qui leur tenait tête.
La veuve et le château, peut-être aussi.
Voilà. Et alors, ce qui est amusant, figurez-vous, c'est qu'on a retrouvé le portrait de cette veuve dans le grenier. Alors, on l'avait, on, voilà, en faisant un peu du rangement, on a trouvé ce très grand portrait, ce qui est étonnant, vraiment très, très
ancien,
impressionnant.
Portrait ancien.
Ah oui, oui, d'époque, vraiment. Et alors, on l'avait mis un peu négligemment dans le couloir, et c'est Diego Mince, le conservateur des objets classés du Morbihan, qui faisait un tour un jour dans le château, et puis qui me dit « Oh là là, mais c'est très intéressant. » Il tombe en arrêt devant le tableau. Et alors, je lui dis qu'on le sort du grenier. Elle me dit, mais non, mais attendez, il faut faire une recherche. Et enfin, bref, il a réussi à identifier que c'était bien Françoise de Trécesson, qui n'est pas très joviale, qui ressemblerait un peu à Alice Aprit, si vous voulez.
Ah donc, oui, en effet.
Voilà, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas non plus mis immédiatement
à l'honneur,
à la place d'honneur. Mais en fait, là, son tableau est en train d'être restauré. Il a fait l'objet d'une inscription, de façon en fait à pouvoir... on a essayé de faire classer un maximum de tableaux des ancêtres Trécesson, de façon à pouvoir être sûr qu'ils restent sur place, parce que c'est toute la logique du château, de garder toutes les pages d'histoire qui se sont passées par là. Et parce qu'en fait, le château n'a été vendu que deux fois dans son histoire. Donc en 2022, nous l'achetons, mais précédemment, il a été vendu en 1793. 1793, vous me direz tout de suite, ding ding, ça sonne Révolution française, effectivement. À l'époque, Trécesson est parti en exil. Il a laissé sa femme et ses deux filles au château. Et en fait, elles vont subir, on va les obliger à vendre le château. Alors non pas comme un bien national, ce qui est la bonne chose, parce que du coup rien n'a été vendu à l'encan comme ça se faisait
pour les
biens nationaux où tout était absolument vidé. Mais en revanche, justement, elles n'ont pas eu le droit de repartir avec le moindre tableau d'ancêtre, la moindre petite cuillère en argent du service. Tout est resté à Trécesson. Et ça a été racheté, figurez-vous, par un dénommé Sivry, qui n'est autre que le payeur général de l'armée des Bleus. Donc en fait,
protégé.
Voilà, tout à fait. Cette situation défensive lui convenait bien pour tenir la cassette de l'armée. Et d'ailleurs,
Hoche est venu par là, non? Hoche n'est pas venu par là, puisque les Bleus s'étaient quand même dirigés par Hoche, mais il s'est arrêté peut-être qu'à la Vendée.
Oui.
Toujours est-il, c'est que c'est resté un petit peu à l'écart, alors.
Voilà.
D'après ce que je comprends.
Oui. Alors lui, comme il avait la cassette de l'armée, vous savez, ça me fait penser un peu à La Folie des Grandeurs, si vous avez la référence. Avec,
entre Alice Sapritch et La Folie des Grandeurs, je vois qu'en fait, on va peut-être parler, Stéphanie, après la prochaine fois de La Grande Vadrouille,
voilà,
ou je ne sais
ça,
pas.
Louis. Voilà.
Enfin, La Grande Vadrouille, c'est vous qui l'avez en ce moment. Hein.
C'est ça.
Donc,
il est devenu extrêmement riche et du coup, il a acquis beaucoup de châteaux dans les environs. Et donc, dès que la révolution, la guerre civile va se calmer, il va complètement se désintéresser du château, qui va se refermer et ne plus rien vivre de palpitant jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors là, c'est vraiment l'époque sombre pour le château, parce que donc, pendant un siècle quasiment, il ne se passe plus rien.
Avec le contenu. Reste à l'intérieur.
Voilà, tout verrouillé. La seule chose qui se passe, et qui est quand même intéressante, en 1830, parce que donc, il faut imaginer, vous avez le château donc entouré de ses douves, mais tout autour, vous avez les communs qui sont très grands, très vastes. Et en 1830, la première expérimentation d'une ferme-école agricole va avoir lieu dans une très grande grange de Trécesson, qui va servir de pensionnat, qui va accueillir jusqu'à une trentaine d'élèves qui vont travailler les abords du château, toutes ces terres agricoles. Enfin, pas toutes, mais une certaine surface, parce qu'en fait, c'est le début un peu de cette approche scientiste, on veut mettre de la rationalité, c'est pas juste le papa ou l'oncle qui apprend aux jeunes comment on fait dans les champs. Et voilà, donc cette expérience va durer de 1830 à 1840, mais c'est vraiment la seule chose qui fait vivre Trécesson au 19e.
Mais ils entretiennent quand même les toits et la propriété,
et
ou
non,
ils sont vraiment juste à côté
du tout. Ils ne s'intéressent pas du tout à tout ça. Ils vont beaucoup plus au château de Villeneuve où ils sont tous enterrés. Donc les successeurs de Sivry vont vraiment délaisser totalement Trécesson. Et en fait, la chance de Trécesson, c'est qu'une des héritières donc à la fin du 19e, qui s'appelle Alice de Perrien, qui doit être une âme follement romantique, tombe amoureuse raide à nouveau de ce château tellement pittoresque, romantique, avec ses toitures éventrées, etc. Et donc, elle va s'intéresser à Trécesson, elle va décider d'habiter à Trécesson, et elle va, alors ça tombe bien, elle est très riche, mettre une vraie petite fortune pour remonter Trécesson. Alors souvent, parfois on râle un peu, on se dit, elle a fait un peu des économies de bout de chandelle en mettant des charpentes en pin à certains endroits.
Oula.
Et on aurait aimé qu'elle fasse ça plus largement.
En se teigner,
voilà.
Ça aurait été beaucoup mieux. Oui.
Certaines réflexions sont un petit peu... Mais bon,
elle a sauvé.
On pinaille, parce que, exactement, elle a sauvé le bâtiment.
Voilà, au même titre que Louis-Philippe a sauvé Versailles, voilà.
Exactement. Et alors, il y a une petite anecdote aussi. Dans les choses qui sont restées dans le château, dans un des couloirs, dans un endroit un peu sombre, pas très beau, il y avait un tableau d'une très belle femme. Alors nous, on l'avait tous trouvée très belle. Et en demandant donc aux gens qui nous visitaient, à chaque fois, ils disaient « Oui, non, c'est la nourrice de la grand-mère. » La nourrice de la grand-mère. Alors déjà, on trouvait qu'elle n'avait pas du tout une tournure de nourrice, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle était rudement élégante. Bref, on était très étonnés. Donc, quand on a été dans les lieux, on a récupéré ce fameux tableau. Mon mari l'a descendu pour le mettre plus à l'honneur ailleurs. Et là, au dos, il était écrit en fait que c'était Alice de Perrien.
Sapristi.
Et voilà. Donc en fait, la pauvre arrière-grand-mère se faisait traiter à longueur de jour de nourrice, alors qu'en fait, c'était grâce à elle que...
Elle s'appelait peut-être Alice. Non, pas encore.
Comment?
Elle s'appelait pas Alice.
Si.
Pas... Elle s'appelait aussi Alice.
Elle s'appelait Alice de Perrien. Donc cette nourrice, ah ça je ne sais pas.
Non, c'est pour ça que vous parliez de Alice Sapritch et je revenais là-dessus.
Et alors ça, du coup, on invite souvent nos visiteurs, on raconte l'anecdote parce qu'on voit ce tableau lors de la visite guidée et on leur dit surtout mettez les noms sur vos photos, toutes les personnes. Aujourd'hui, ça vous paraît évident, comme ça l'était à l'époque pour toutes ces personnes de l'indivision. Et au fur et à mesure du temps, eh ben voilà, les choses se déforment, les choses se transforment et on se retrouve avec l'arrière-grand-mère qui est transformée en nourrice, alors que franchement, il n'y avait pas le moindre indice qui ait pu faire penser à ce genre de choses.
À vous écouter avec passion, ma chère Stéphanie, vous avez trouvé ce château très bien, mais vous l'avez acheté meublé ou vous avez trouvé alors, expliquez-moi ce que vous avez trouvé, puisque a priori, vous avez déjà pas mal d'ancêtres, parce qu'il y a des choses classées peut-être à l'intérieur. Non, même pas.
Alors oui, il y a effectivement des statues assez remarquables du 15e, polychrome, de très grande taille, qui ont été classées, inscrites depuis fort longtemps.
Qui étaient dans la chapelle.
Qui étaient dans la chapelle. Alors en fait, il y a deux chapelles sur le domaine. On a une petite chapelle à l'intérieur des douves et une chapelle à l'extérieur, à environ 3 km sur les hauteurs,
un bâtiment.
Qui est une ancienne chapelle de Templiers.
Restaurée ou pas ?
Qui est en très bon état.
Parfait.
Enfin, tout à fait raisonnable, on va dire. Enfin, très bonne, très bon. Vous imaginez, c'est quand même du 12e siècle. Donc voilà, mais en état très satisfaisant. Et d'ailleurs, il y avait une tradition tous les ans qui est la fête de la Saint-Jean. Donc à la fête de la Saint-Jean, on faisait bien sûr faire dire une messe et on priait aux intentions de tous les défunts de la paroisse pendant l'année. Et après, on partageait tous ensemble une galette saucisse. Donc on a remis cette tradition à l'honneur. Et depuis qu'on est là, chaque année, à nouveau, a lieu la fête de la Saint-Jean, qui est vraiment un moment très chaleureux, très sympathique, avec des gens qui viennent vraiment des alentours immédiats de la chapelle, qui ne sont pas forcément des grands pratiquants. Mais c'est et chacun amène son bouquet de fleurs aussi. Le fleurissement est travail collaboratif.
Une petite tradition qui se perpétue.
Voilà. Et alors cette chapelle, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'était un ermitage. Et alors ça, c'est très typique breton. Dès qu'un moine était mort en odeur de sainteté, il récupérait son chef et il l'exposait dans la chapelle. Donc en fait, il y a une collection de crânes à l'époque, au début du XXe siècle, qui est mentionnée dans les cartes postales comme absolument, vraiment digne d'être regardée, parce que très surprenant de se retrouver comme ça, parce qu'effectivement, l'Église catholique ne met pas sur les autels des personnes qui n'ont pas été officiellement canonisées. Mais là, il y avait cette collection, c'est très breton en fait. On auto-canonise quasiment les personnages.
Systématiquement.
Voilà. Et donc, on a récupéré quelques crânes qui se trouvent dans la chapelle, pour le coup, du château. Parce que toutes les œuvres d'art, tout ce qui pouvait, intéresser éventuellement des voleurs, a été retiré de cette chapelle qui est un peu isolée et qui serait trop vulnérable. Alors, elle intéresse, mais figurez-vous qu'elle intéresse aussi, par exemple, des francs-maçons. On a été récemment contacté par une personne d'une loge qui nous demandait de pouvoir louer la chapelle Saint-Jean pour faire un grand banquet pour la Saint-Jean d'hiver. Alors, je ne savais pas qu'il y avait Saint-Jean d'hiver, Saint-Jean d'été, qui est une fête très importante.
Ils vous prennent pour des singes, là, alors.
Pardon ?
Ils vous prennent pour un singe, là, à ce moment-là. Parce que... C'est un jeune mot. Le singe en hiver, vous connaissez le film.
Oui. Mais bon, enfin voilà, elle intéresse. On a aussi beaucoup, on est dans la région de Brocéliande, donc on attire beaucoup de gens un peu mystico-dingo, j'allais dire, qui nous demandent s'ils peuvent faire des mariages celtiques sous l'arbre qui est dans la chapelle, grand chêne.
Surtout pas de religion, mais dans la chapelle quand même.
Voilà. Ah ben voilà, c'est ça. Exactement. C'est, ouais. Et alors quand j'ai dit justement à ce monsieur, mais écoutez, je suis désolée, elle est toujours sacralisée. Ah, mais justement, au contraire, c'est très bien. Bon, voilà.
Oui, là, on peut repartir, effectivement.
Voilà, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
Tout ça pour dire que vous avez récupéré les crânes.
Ah oui, alors, pardon.
Mais on va revenir. Non, mais ça fait
sur
partie.
Je reviens sur votre question de début. Oui.
Je reviens sur cette émission. Je suis avec Stéphanie de Saint-Léon. Nous parlons du château de Trécesson dans le cadre de notre émission du mardi, une fois par mois, Olivier Loutrebrante. J'anime donc cette émission qui s'appelle Art bâton rompu. Et là, nous étions en train de battre les petits morceaux de bois. Et effectivement, nous allons revenir sur ce que vous avez acquis dans ce château. Parce que vous me parlez effectivement des crânes dans cette chapelle que vous avez retrouvée. Quelques tableaux qui étaient dans le grenier. Mmh. C'était nature, c'était qui vendait et vous avez ouvert la porte, il y avait des toiles d'araignée et il y avait un intérieur encore habité malgré tout. Qu'est-ce qu'il y avait ?
Alors, c'était
toujours passionnant, moi qui fais pas mal de découvertes par mon métier. On rentre dans une propriété, on sait que c'était le grand-père qui était là, ou ça a été abandonné, etc. Parlez-nous exactement comment vous avez trouvé d'abord cette propriété, dans quel état et ce qu'il y avait à l'intérieur.
Alors, cette propriété avait été très bien entretenue pendant tout le XXe siècle. Elle était vraiment habitée, on va dire, probablement jusqu'aux années 50-60. Et après, c'est devenu une résidence secondaire. Donc, quand même moins de présence, mais toujours avec un entretien régulier, en fait. Des gens qui vraiment avaient à cœur de bien l'entretenir. Et en fait, le papa décède en 2005, la maman en 2008. Et les enfants qui reprennent à ce moment-là sont quatre et dans des situations très différentes. On a des deux CSP+. On a un des indivisionnaires qui est au RSA, donc vous voyez des grosses différences. Donc évidemment, quand on parle de défiscaliser à celui qui est au RSA, il y a une incompréhension de fait. Et donc, si l'entretien avait été bien fait jusqu'on va dire à peu près au décès des parents, après, ça laisse vraiment à désirer, faute d'entente en fait, parce que la volonté, elle était là. Certains ont essayé de racheter les parts de l'autre, mais ils ne se sont pas entendus mutuellement. Et donc, ils sont arrivés finalement d'une situation de blocage, bien malgré eux. Et en fait, tous, on a eu un contact un peu plus personnel avec chacun, mais quasiment individuellement, en fait, parce qu'ils ne s'entendaient pas globalement.
Donc, Mais vous avez réussi à faire la synthèse.
Donc, quand on est arrivé pour visiter, voilà, on avait un des indivisionnaires qui était là, qui nous a fait faire le tour. On en a vu une autre après. Et après la vente, on a été contacté par encore une autre qui ne nous avait pas contacté avant, qui nous a dit, écoutez, maintenant que vous avez eu la version des autres, moi, j'aimerais vous donner ma version aussi.
Plutôt sympathique, oui.
Voilà, et en fait, ils ont été vraiment très précieux, parce que toujours très ouverts à ce qu'on pose le maximum de questions. Même si parfois on était un peu frustrés parce qu'on avait vraiment cette impression qu'ils avaient vécu dans un lieu sans se poser de questions, justement. Parce que voilà, c'était les parents qui étaient là.
Oui, donc
c'était une évidence, tout était une évidence. Il n'y avait pas de questions à se poser. Et donc, voilà, mais ils nous ont donné toutes les archives qu'ils ont pu. Ils nous ont transmis, on a pu racheter certains tableaux.
Oui, parce que j'allais vous demander, c'était ça ce qui m'intéressait aussi.
Voilà. Alors, il y avait des meubles, pour répondre à votre question quand même. C'est, en fait, Trécesson était surmeublée. Elle avait suivi, on aurait pu penser que c'était presque un garde-meuble à la fin. Il y avait énormément de meubles partout. La bibliothèque, on rentrait entre des énormes armoires, on arrivait à peine à glisser un pied entre deux. Donc, du mobilier, il y en avait énormément. Alors, ils ont retiré quand même une grande partie, mais ils ont laissé pas mal de choses, dont, comme je vous disais, des tableaux. On a retrouvé des beaux tableaux 17e aussi dans le grenier, une tapisserie d'Aubusson.
Ils ignoraient ou ils avaient abandonné parce que
ça faisait juste trop. C'était le moment où... voilà. Ouais. Et puis, ils étaient peut-être contents de ne pas laisser une propriété complètement vide aussi. Mais vous voyez, pareil dans cette idée de perte d'information. On sait que dans les années 70, donc il y avait un bisbille entre, si vous voulez, la famille des descendants des Trécesson avec ceux qui avaient racheté, évidemment, parce que ceux qui étaient partis Trécesson avec un peu une clé de bras dans le dos, sans pouvoir faire autre chose que vendre, en voulaient un petit peu à ceux qui avaient racheté, et surtout du fait qu'ils n'aient aucun tableau d'ancêtre.
Parce que les Trécesson ont vendu il y a combien de temps
En 1793, donc.
Oui, d'accord. Et alors après
On a une succession de
propriétaires.
De propriétaires
Et les derniers sont restés, quoi, 30 ans?
Ah non, non. En fait, non, ça passe toujours par les femmes. Hein, donc, c'est toujours les descendants de notre payeur général des armées qui
d'accord.
jusqu'aux individuaires, Civry. On était toujours, voilà, ce
toujours
fameux
Civry. Civry.
Voilà.
Je vous dis ça parce que la rue de Civry est juste à côté de notre chère Radio Courtoisie, c'est pour ça qu'il y a peut-être un rapport avec Civry, le fameux.
Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il s'appelait Bourrel, hein, ce brave garçon. Mais il n'y a pas mieux qu'un révolutionnaire pour se faire anoblir. Et donc, comme il épouse une femme qui est une Civry, voilà. Il se fait rajouter Bourrel de Civry. Ouais. Et il se fait servir long comme le bras, un Bourrel de Civry. Mais c'était Bourrel au départ.
Alors, pour être très sérieux, je rappelle que j'invite Stéphanie de Saint-Léon de Trécesson aujourd'hui pour parler du château de Trécesson. Donc, vous retrouvez donc ce château avec du mobilier.
Voilà, des choses à découvrir un petit peu. Oui, de belles pièces. Et alors, en discutant justement avec ces indivisionnaires qui étaient très ouverts et vraiment... dans le partage d'informations, on apprend que le portrait de Paul-Joseph de Trécesson, qui est un homme important, parce que c'est lui qui a construit toute l'aile 17e du château, il y a une aile à au dos, qu'on ne peut pas voir sur la photo de façade que vous avez devant vous, une aile 17e. Donc Paul-Joseph, qui est un très beau tableau de l'argilière, attendait sous son lit, parce qu'il avait juste plus d'endroit pour pouvoir être positionné. Alors on lui a dit, écoutez, si ça vous va... On est ravis de pouvoir l'acquérir, ce qu'on a fait, et ainsi qu'une autre pièce qui est en fait une arme d'alliance peinte sur un panotage en bois et qui pareil...
17e
Non, plus 16e, plus ancienne.
Voilà.
Et en fait, ça, on ne savait même pas que cette pièce-là existait. C'est à nouveau Diego Mince, le conservateur, qui allait faire une exposition au domaine de Kerguéneck, qui nous a dit, mais est-ce que vous avez cet élément-là? Je le mettrais bien dans l'exposition. Et là, ah ben non, on ne voit pas du tout. Donc, on a fait des recherches et gentiment, ils nous ont dit, pas de problème, on peut s'arranger. Et voilà. Donc, on essaye de... Alors, on a eu aussi une aventure amusante. Un jour, on est contacté par un monsieur de Laval qui nous dit, écoutez, j'ai un tableau chez moi d'un Trécesson. Je suis un vieux monsieur, mes enfants vont mettre tout chez Emmaüs dès que je serai plus là. Donc si ça vous intéresse, eh bien on vous le cède volontiers. Alors évidemment, je suis arrivée au galop, trop contente. Et le plus drôle de l'histoire, c'est qu'en fait, il s'agit du mari de Françoise de Trécesson, notre fameuse Françoise qui a fait la guerre contre les Ligueurs. Alors on l'a, elle, en version Alice Sapritch, habillée en veuve, pas très drôle, assez austère, on va dire. Et lui, son mari, on l'a en jeune marié, tout pimpant, plein de couleurs, un très beau tableau. Voilà, donc en fait, on a l'impression de jouer un peu au jeu des sept familles pour essayer de retrouver les Trécessons qui sont passés par là. Et alors, je reviens sur mon idée de départ. J'étais en train de vous raconter que donc... Les Trécessons sont venus plusieurs fois pour voir ces fameux portraits d'ancêtres. On sait qu'il y a un sénateur à la fin du 19e qui va venir voir Alice de Perrien.
Peut-être Franc-Mac.
Ah, ça je ne sais pas.
Enfin, demandez peut-être à ces messieurs qui veulent prendre votre chapelle. Voilà.
Et donc, il vient voir Alice de Perrien pour voir ces portraits-là. Elle lui montre. Il demande à faire une photo. Ça lui est refusé. Donc, pas de photo. Et... Dans les années 70, un autre qui s'appelle François de Trécesson vient rencontrer Michael de Prunelay, qui est le propriétaire du moment, qui lui montre à nouveau, Michael lui montre dans le grand salon les 5 portraits d'ancêtres. Pareil, refus de photo, pas de copie. Il demande aussi à faire des copies, on refuse cette demande. Moyennant qu'aujourd'hui, les indivisionnaires ne savaient pas qui était qui dans ces portraits qui restaient dans le salon, en fait. Et alors, on a essayé de leur demander, vous n'avez pas des photos? Ben non, on n'avait pas de photos à l'époque, il n'y avait pas le numérique, c'était compliqué de faire des photos, on n'en faisait pas. On allait peu, d'ailleurs, dans le grand salon, surtout, c'est ça qu'on a compris, c'est que c'était vraiment la pièce dans laquelle on rentrait...
Sacro-sainte.
Voilà, exactement. Et voilà, donc c'est un peu triste, ces informations comme ça qui se perdent. Et donc, pareil, on essaye toujours de motiver nos visiteurs à bien noter tout.
Vous avez totalement raison, parce qu'après nous, il n'y a plus personne.
C'est ça, voilà. Voilà. Non, et ce qui nous paraît évident, nous, n'a rien d'évident pour nos enfants, déjà.
Et raconter ses souvenirs, ça fait partie, justement, de ces souvenirs-là. De bien mettre derrière, effectivement, chaque photo, le nom des gens. Mm-hmm. Moi, je vois même, j'ai des photos de classe, il n'y a pas le nom derrière, malheureusement.
Oui.
Donc ça, on peut éventuellement les retrouver, mais du 15, 16, 17e, c'est plus compliqué. On va faire une petite, pause, parce que vous m'avez demandé, vous m'avez choisi le canon de Pachelbel. Ça paraît tout à fait classique comme ça, mais le classique n'est jamais démodé. Et on parle donc de cette belle propriété du château de Trécesson et on va parler de Pachelbel. Pachelbel, qui avait comme père un négociant en vin, il a fait ses études à Altdorf et à Ratisbonne et devient élève de Kerl. J'ai déjà mis un morceau de Karl d'ailleurs dans cette émission. Et Pachelbel, on peut le rappeler, a été baptisé le 1er septembre 1653 à Nuremberg. Sa date de naissance n'est pas connue. Il était d'une famille de classe moyenne. Il était le fils de Johann Pachelbel, donc négociant, et sa femme Anne-Marie Mère. Durant sa jeunesse, Pachelbel reçut une éducation musicale de différents compositeurs. Sachez surtout que ça a été un très grand organiste qui a été en rapport avec la famille Bach. Et donc, je vais m'arrêter là parce que sans ça, Stéphanie ne pourra pas continuer son émission. Et à ce propos, il y a un auditeur qui nous met « Cher monsieur, bonjour, votre invité rend passionnante une émission dont le sujet pouvait ne pas spécialement intéresser outre mesure. Cher monsieur, là, je n'apporte pas du tout d'eau à votre moulin, si je puis dire, si ce n'est au moulin de Trécesson. La façon charmante, donc, madame de Saint-Léon nous parle de son enfant rappelé au ciel est émouvant. Elle nous fait vivre l'aventure de château qui est le sien et je tenais à vous en remercier. » Donc Stéphanie, vous voyez, vous avez des auditeurs riches en bonnes pensées qu'on peut améliorer sur le sujet en question. Peut-être que ce monsieur ne voudra pas que je refasse une émission sur les châteaux, mais pourtant c'est notre cher patrimoine. Alors on va écouter Pachelbel et puis après on va peut-être parler aussi du patrimoine, la fondation du patrimoine, les audacieux du patrimoine.
Très bien.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors, nous poursuivons notre émission Art Bâton Rompu aujourd'hui avec Stéphanie de Saint-Léon, propriété familiale depuis 2023. 2022. La propriété, le château de Trécesson. C'est donc une très belle propriété en Bretagne et nous étions en train de deviser sur la conservation de cette belle propriété. Et je salue déjà Stéphanie et sa famille pour la passion qu'elle a maintenant pour cette propriété qui était, nature, on va dire, dans son jus, malgré tout, malgré des transformations.
Oui, c'est ça. Elle était restée vraiment sur son format initial, sans avoir subi beaucoup d'améliorations. Alors, il y a un chauffage central quand même qui a été installé, mais il est complètement hors d'usage. Donc, l'hiver, on dort, on va dire, à la dure, à 3,5 degrés dans la chambre, au plus froid.
Ah oui, quand même.
Oui, ça conserve, c'est bien.
Mais avec ça, vous allez engager les gens à venir vous voir pour visiter cette belle propriété?
Alors, justement...
Parce que donnez-nous quelques informations, parce qu'on ne va pas aller en plein hiver. On pensera à vous, mais je pense qu'il y a peut-être des horaires et surtout des mois plus favorables.
Exactement. Alors, notre première le premier constat important qu'on a fait en arrivant à Trécesson, c'était que Trécesson était absolument verrouillé. Il n'y avait pas du tout de visite organisée. Les gens du village ne connaissaient même pas la cour d'honneur du château. Ce qui se passait derrière les grandes portes fermées, ils n'en avaient aucune idée.
Parce que le château n'est pas dans un village.
Il est à l'extérieur. Il est à 3 km du village,
on va dire. 3 km, donc c'est vraiment isolé.
C'est isolé, absolument. Oui, c'est ça. On peut le dire. C'est isolé, mais il n'y avait surtout pas de volonté de l'ouvrir. Et on s'est dit, nous, on veut que ce soit une propriété de famille, certes, mais une propriété de famille qui vive et pour laquelle y a des mobilisations de bénévoles, de gens qui le connaissent, qui l'aiment, et pour le faire aimer, faut l'ouvrir. Donc là, on est arrivé donc en avril 2022 et dès l'été, donc juillet 2022, il était ouvert au public. Donc on a fait extrêmement vite sur ce sujet-là. Alors après, la première année, il n'y avait que les extérieurs qui étaient visités. On a fait des visites spéciales d'ailleurs pour les gens du village qu'on a reçus avec un petit verre, c'était fort sympathique, de façon à leur faire connaître en priorité ce beau patrimoine, parce qu'eux-mêmes parlent de leur château. C'est notre château,
ils parlent du
château. C'est normal. Donc c'était pour nous très important de faire cela. Et chaque année, on a ouvert d'autres pièces. Donc, le parcours, c'est, a été chaque année amélioré, plus large. Et depuis l'année dernière, on a un système de visite libre ou de visite guidée. Donc, les gens peuvent vraiment faire selon un petit peu le temps qu'ils ont, leurs envies. Évidemment, la visite guidée est plus intéressante. On voit plus de pièces. On va dans des zones sur lesquelles on a des petites jauges parce que la partie 15e est...
on
a des linteaux un peu bas. On a des escaliers.
Il a fallu des autorisations pour tout ça.
Voilà, bien sûr. Et donc, c'est justement le SDIS qui a imposé ces jauges à 18 personnes. Et donc, les visites guidées, souvent, les gens réservent à l'avance sur le site internet pour être sûr d'avoir un créneau. Parce que c'est un peu désolant quand ils arrivent et que tous les
créneaux...
Alors, aujourd'hui,
vous avez combien de visiteurs?
Alors, on a pas mal de visiteurs. Tous les ans, on fait 45% en plus. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à un peu plus de 10 000. Donc, on a bon espoir.
Ah oui, 10 000 en l'espace de 2 ans et demi, c'est quand même...
Et seulement avec une ouverture en juillet-août. On est vraiment sur seulement 2 mois, plus journée du patrimoine, si quand même, où on est ouvert une journée sur les 2 jours. Et cette journée-là, on reçoit aussi des voitures anciennes, des collections de voitures anciennes pour varier un peu la proposition. Et alors, on a ces visites, mais on a aussi beaucoup d'animations. En fait, le projet, c'est que l'été soit, ça soit un peu un pôle de vie, un pôle culturel, un poumon culturel presque, pour la forêt de Brocéliande, qui est très estampillée, mystico-dingo, ou légende arthurienne. Mais c'est pas du tout notre... c'est pas trop notre ADN.
Nous, non, les mais gens vous avez viennent... des gens qui sont axés là-dessus. Donc, il faut aussi, peut-être, à un moment ou à un autre... trouver, je dirais, non pas une clientèle, mais des passionnés avec ce thème malgré tout.
Alors, justement, vous n'avez pas tort de dire ça. On organise cette année une exposition qui va faire référence au travail d'un artiste du coin qui a bâti à Néant-sur-Yvelles la table des chevaliers. Donc, une grande table ronde, vous imaginez, avec le roi Arthur. Et tous les ans, il y a un chevalier de plus qui est rajouté autour de la table. Alors, c'est des personnages qui sont assez monumentaux. Ils font une fois 1,5 la taille d'un homme normal. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Et et on va faire donc une exposition pour montrer son travail, en fait. Et donc, toutes les étapes, en partant du croquis, des moulages.
Au travers de ça, vous allez arriver à ce côté mythique, druidique, si je puis dire, arthurien.
Alors, c'est plus... Alors, effectivement, on sera à nous... Oui, on sera de fait dans la légende arthurienne.
Voilà.
Mais l'idée, c'est plus de partager un savoir-faire, ce travail de l'artiste, peut-être donner des envies pour des jeunes qui vont voir ça.
Tout à fait.
C'est une exposition complètement libre, pour le coup. C'est juste un petit écho, parce que la Table des Chevaliers est très vue. Il y a plus de, je crois, 100 000 personnes qui passent chaque année voir cette table. C'est vraiment un point important à Brocéliande. Et que les gens puissent découvrir... comment travaille l'artiste, ça nous paraissait tout à fait intéressant.
Il sera là de temps en temps.
Alors, il va venir, oui, bien sûr, on va faire une belle inauguration. Et puis, il travaille aussi sur une pièce originale qui sera dans le château, mais ça, je ne peux pas en dire plus.
Très bien, un petit scoop. Voilà, une surprise.
Surprise, voilà, il faut en garder pour les
pour
découvertes ultérieures. Voilà, et puis, on aura aussi une troupe de théâtre qui va venir poser ses guêtres pendant une semaine au château pour donner deux représentations chaque jour pendant la dernière semaine de juillet avec une pièce de Marivaux, je crois.
Ah ben c'est plutôt bien.
Arlequin poli par l'amour, voilà, c'est tout public, c'est facile, c'est léger. Alors, c'est une troupe de théâtre qui s'appelle De Kairos et leur spécialité, c'est de...
Kairos.
Vous connaissez ? C'est d'être, de ne jouer qu'en plein air, donc dans les jardins, dans des...
Du cadre extérieur.
Exactement. Et en fait, ils font toute une tournée dans les différents châteaux. Ils vont à Bienassy, ils vont au château de Quintin, ils vont à la Malouinière, le nom m'échappe. Donc tout un beau parcours. Donc on aura leur visite. On va avoir aussi des animations de fauconnerie. En fait, on a la chance d'avoir une fauconnière qui habite à peine 4 km de Trécesson, qui est la fauconnière entre guillemets référente pour représenter la France quand il y a des grands festivals en Arabie Saoudite ou ailleurs. Donc, elle est vraiment très reconnue dans son métier. Et alors, elle vient avec ses oiseaux et elle explique un petit peu, en fonction de la morphologie, vous voyez, cet oiseau, on fait de la chasse de haut vol parce que, vous voyez, il est profilé comme ça. Hein. Elle nous explique un petit peu tout ça et à la fin, les gens prennent un gant, peuvent tenir les oiseaux, faire des photos. Alors, ça, c'est le grand succès, ça plaît beaucoup. Et chaque année, ça fait maintenant 4 ans qu'on fait ça. On le renouvelle à chaque fois parce que vraiment...
Ça va être le puits de Trécesson comme il y a le puits du fou, non ?
C'est un spectacle, c'est une animation. Elle ne fait pas voler ses oiseaux. Et elle ne pourrait pas les faire voler, on a des pans. Et alors justement, parfois, il faut arriver à faire repartir les pans, parce que nos pans se baladent librement. Et on a parfois des interruptions un petit peu fâcheuses avec les pans qui se rapprochent trop, le faucon qui fait mine de fondre sur lui. Enfin, on a quelques
émotions.
Voilà.
Et donc, vous avez des pans autour de votre jardin, de votre château, à l'intérieur, à l'extérieur.
Voilà, ils se promènent partout. Et le pan, sa caractéristique, c'est qu'en fait, ils volent extrêmement bien. Et ils vont dormir dans les grands arbres qu'il y a autour du château.
Donc ils ne sont, sont pas happés par un renard
Non. Ils sont en toute sécurité en haut des arbres. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien pour eux. Alors ils fuient parfois un peu les visiteurs, mais les visiteurs sont ravis de les voir. Dès qu'ils se montrent, ils se posent comme ça sur les rebords des douves. C'est très beau, c'est très majestueux, oui. C'est vrai. Alors on a aussi des escape games qui sont organisés pendant tout l'été et qui permettent d'aller dans une zone où on ne va pas habituellement, dans un des greniers, d'un grand grenier de la partie 15e. Voilà, donc ça, c'est un prestataire qui s'occupe de
cette partie-là. Il fait quoi exactement, alors ?
Alors, en fait, il fait une enquête. Il parle d'un personnage, Alma, qui vit dans le château, une grande dame qui est fauconnière, oui. Tiens, comme par hasard, et qui est très intuitive et qui mène des enquêtes. C'est un petit peu ça. Et cette personne a disparu, donc il faut la retrouver. Enfin, voilà. Et donc, en fait, il y a plusieurs pièces secrètes par laquelle il fait passer
mystère.
Grâce.
Le voilà. Mystère passe
donc,
par.
Voilà.
Ah oui, vous avez pris en main toute cette destinée avec une formation, vous, personnellement. Qu'est-ce qui vous a permis de faire, d'avoir une fauconnière, d'avoir justement... des animations comme ça.
C'est un petit peu les hasards des rencontres.
C'est
pas forcément une. Et puis après, on voit ce qui se passe bien ailleurs. Ça nous donne des idées. Mais là, vraiment, la fauconnière, c'était entre guillemets, ça nous est tombé dessus avec une fauconnière à 4 km. C'était quand même.
Oui, c'est quand même merveilleux.
Hein,
mais alors, vous avez deux bras, Stéphanie, mais vous êtes un peu aidée. Parce que
alors,
quand je vous ai appelé,
et beaucoup de casquettes sur la tête.
Oui, parce que quand je vous ai appelé pour vous dire est-ce que vous croyez que, il m'a dit je suis en train de débroussailler. Donc c'est vrai que Stéphanie est jeune, mais il faut quand même avoir d'autres bras que ses propres bras soi-même.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on est, on est un petit peu sur tous les fronts.
À la fois.
On s'imagine pas, on est une image un peu... Enfin, souvent, les gens ont une image un peu éthérée ou très, très rose de la vie de Châtelain. La vie de Châtelain, c'est surtout beaucoup de casquettes sur la tête et beaucoup de choses à faire. Ouais. On ne s'ennuie pas.
Ce n'est pas une vie de château. La vie de Châtelain n'est pas un vie de château.
Voilà, exactement.
C'est ce que dit un de mes amis, qui vous connaissez peut-être, qui est Amaury de Louvencourt, qui a fait un musée de la vénerie remarquable et qui d'ailleurs, soit dit en passant, fait une petite vente de ses greniers au profit des toitures, donc ça, on pourra en reparler un jour, mm-hmm. si vous voulez, au profit des toitures et également pour un institut de le cancer, puisqu'il a perdu sa femme il y a à peine 8 jours. Et il maintient cette vente malgré tout. Et cette vente est donc à Montpoupon, à Serré-la-Ronde, à côté de Montrichard, le samedi 6 juin. Voilà. Mm-hmm. Alors, je parle de ça parce que si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'en parler. On va mettre ça sur les ondes. On l'a mis dans la Gazette de l'Hôtel de Rouault. Et à peu près 150 lots d'objets qui, finalement, n'ont pas leur place dans ce château. Et ce château, que moi, j'ai connu très jeune, c'est donc en Touraine, le château de Montpoupon, était fermé au public. Ça n'avait jamais été ouvert. Et donc, Stéphanie, elle, hérite aussi d'un château qui n'avait pas été ouvert depuis très longtemps. Donc, voilà. On parle du château de Trécesson et on continue d'en parler, ma chère Stéphanie. J'ai fait une petite incise.
Et alors, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était des tournois de chevalerie aussi pendant l'été qui étaient très appréciés. Et alors, cette année, on est monté un petit peu
en gamme.
C'est-à-dire qu'on fait un week-end médiéval avec donc non seulement ces fameux tournois de chevalerie qui auront lieu deux fois chacun des jours, mais en plus des ateliers de calligraphie, de poterie, de l'initiation à l'épée longue avec un authentique maître d'armes qui va venir. Et donc, voilà, des ateliers qui permettront aux gens de repartir, enfin, déjà avec une expérience si c'est par exemple l'initiation à l'épée longue, mais avec un objet si c'est la poterie ou la calligraphie. Il y aura des artisans, enfin voilà, ça sera...
Mais les gens qui viennent chez vous, ils vont rester 3 jours.
On les invite à le faire.
Il va falloir que vous fassiez une maison d'hôte à côté, ma chère, non? Vous ne croyez pas?
Alors, on a des gîtes, effectivement.
Ah, vous
aussi.
Avez des gîtes. Oui, bon, c'est important aussi. De savoir.
Oui. On a des gîtes aussi. Et donc, ça sera un gros week-end le 8 et 9 août à Trécesson. C'est un peu le point d'orgue, je pense, de l'été. Pour nous. On n'a jamais encore fait ce type de dispositif comme ça sur 2 jours très complets avec beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de choses. Donc, on va voir. C'est une grande première. Et puis, c'est déjà pas mal. Hein. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur nos animations.
C'est déjà pas mal, oui, effectivement.
Oui, c'est déjà pas mal pour cet été.
Alors, parlez-moi maintenant du patrimoine en tant que tel, la Fondation du patrimoine, les rapports que vous avez. Et puis, vous m'avez parlé des audacieux du patrimoine.
Alors, en fait, dans toute cette aventure, grâce à Dieu, on a... à côté de nous, la demeure historique, qui est en fait une association qui fait un travail extraordinaire, qui existe depuis 100 ans, il faut savoir, c'est pas une nouveauté, qui existe depuis 100 ans, qui a été fondée par Carcavallo, le propriétaire de Villandry.
Et, ah oui, les Carvalho, bien sûr,
voilà.
Villandry.
Oui, c'est ça.
Pensez, excusez-moi, au château de Kergalo, qui n'est pas le château de Kergalo, d'ailleurs. C'est une propriété qui a été reprise, d'ailleurs, dernièrement, il y a 2 ans. Mais non, c'est pas Kergalo, qui est un très bel arboretum, entre guillemets, que vous connaissez peut-être, qui est aussi en Bretagne. Mm-hmm. Ça sera, c'est à découvrir.
Voilà.
Mais par contre, les Kergalo, bien sûr, le château de Villandry.
Voilà. Et donc, cette association, elle rassemble des juristes, des...
conservateurs.
Des personnes qui, en fait, nous aident sur tous ces sujets qui sont très pointus. Ils suivent la législation au jour le jour, j'allais dire, pour pouvoir nous informer de toutes les évolutions. Et ça, c'est extrêmement précieux. Parce que, par définition, quand on reprend un monument historique, on n'a pas forcément toutes ces connaissances-là. Eût-on eu quelques informations, elles ne sont forcément pas au goût du jour et ça n'arrête pas de changer, d'évoluer. Donc pour nous, c'est extrêmement précieux d'avoir ce soutien-là, vraiment sur toutes les questions pratiques, techniques.
C'est ça. Et puis, est-ce que vous avez, pardonnez-moi de vous couper, chose que je n'aime pas faire, vous avez un chartrier quelque part qui vous a donné des éléments où vous aviez déjà des archives qui ont été... perpétué depuis, et depuis quand d'ailleurs ?
Alors pour Trécesson, pour parler précisément de Trécesson, en fait on a fait une étude préalable avec un ACRMH, Christophe Amiot, qui a donc étudié la partie effectivement historique à partir des archives qui étaient à Trécesson et des archives qu'on pouvait trouver au niveau du département ou de la région pour rassembler comme ça le maximum de choses. Le but de l'étude préalable, c'est en fait de faire un état des lieux exhaustif de tout ce qui se présente comme potentiel désordre dans le château, de façon après à pouvoir faire un plan d'attaque sur 20 ans, en sachant, ben voilà, tranche 1, on va faire ci, on va faire ça, tranche 2, voilà. Un plan d'attaque qui permet de mieux faire passer les dossiers pour avoir les validations de travaux, parce que Trécesson étant absolument classé tout à l'intérieur des douves, c'est juste la cheminée de telle pièce.
Là, c'est la totalité.
Là, on est en absolu de tout. Donc, littéralement, pour déplacer une prise électrique, il faut avoir l'accord. C'est quand même un niveau de contrainte très fort. Donc, plus on a réussi à faire passer en amont les projets sur des tranches de travaux vues avec l'architecte, plus simple ces plans peuvent se dérouler. Et éventuellement, ça n'existe plus, mais quasiment, avoir éventuellement quelques subventions. Mais là, on est, vous savez, les caisses sont vides. Donc ça fait partie des caisses qui se vident tout de suite. Parce que j'entends parler de milliards qui partent à l'Ukraine. Donc Chambord, il y a plus d'argent, mais il y a quand même des milliards qui partent en Ukraine. Bon, voilà, c'est un sens des priorités qui...
Oui, voilà. Qui est un peu surprenant. Pour voir arriver des poulets qui ne sont pas tout à fait dignes de notre...
De notre patrimoine.
De notre patrimoine à la fois gustatif et gastronomique.
C'est ça. Ouais. Et alors, la demeure historique, vraiment, elle nous sert de pilier. Il n'y a pas, je pense, plus de deux semaines qui passent sans qu'on les appelle ou qu'on envoie un petit mail ou qu'on consulte leurs fiches sur le site internet pour arriver à voir. Là, prochainement, on va avoir un tournage d'un documentaire sur le monde celtique qui va avoir lieu à Trécesson, par exemple. Et bien, j'avais aucune idée du tournage. Mon Dieu, quelle convention, comment doit-on faire, les assurances, etc. Et bien, tout de suite, avec la demeure historique, on a les informations. Donc ça, c'est merveilleux parce que vraiment, on rencontre beaucoup d'autres propriétaires qui ont ces mêmes questions, ces mêmes problématiques. Et donc, c'est vraiment porteur.
C'est précieux.
Précieux.
Donc, on a déjà une chance, c'est d'avoir la demeure historique.
Ah oui.
Pour vous aider quand on arrive dans une propriété qu'on ne connaît pas et on n'en a pas forcément les aptitudes.
C'est ça. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui vont hériter peut-être d'une grosse propriété ou avoir un coup de cœur et acheter comme nous un domaine de s'inscrire et vraiment, parce que c'est leur abonnement vraiment sera immédiatement rentabilisé par rapport à la manne d'informations, de conseils, de bonnes pratiques qu'ils vont pouvoir retirer. Ça, c'est indispensable vraiment de le faire. Et alors, il y a une autre étape dans le cadre de la demeure historique qu'on appelle les audacieux du patrimoine. Vous avez déjà donné le nom tout à l'heure.
Voilà.
Alors, les audacieux du patrimoine, ce sont des personnes qui ont une logique économique dans leur site. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui sont arrivées à la conclusion que le château en lui-même, il fallait arriver à au moins... générer un équilibre financier de l'ensemble des charges pour que ça ne soit pas simplement des boulets, pour que peut-être les enfants aient envie de le reprendre derrière, que ça ne soit pas... parce que par exemple...
Transmission, vraiment c'est une transmission.
C'est une logique à la fois de sauvegarde du patrimoine et
d'équilibre économique.
D'équilibre économique pour envisager une transmission dans les meilleures conditions. En fait, il y a toute cette logique-là en fait, qui se déploie. Et donc ça peut passer par... Donc il faut, pour être audacieux du patrimoine, il faut prouver qu'on a vraiment un projet, donc d'ouverture au public. Si on n'est pas ouvert au public, c'est même pas la peine d'en parler.
Donc vous avez un rapport avec le ministère des Finances alors ?
Alors ça, c'est la demeure historique. Voilà.
C'est la demeure historique.
Et quand il y a des nouvelles lois qui vont être peut-être très contraignantes ou ils n'ont pas apprécié l'impact très négatif pour les monuments historiques, la demeure historique fait partie et est auditionnée dans le cadre des commissions législatives. Donc elle a vraiment un rôle
important, déterminant.
De pointe. Voilà, déterminant. Et nous-mêmes, on fait remonter nos informations de la base. Vous voyez, il y a beaucoup de châteaux qui ont des problématiques. On parlait tout à l'heure des éoliennes, mais donc des cas de figure concrets pour qu'après, eux puissent appuyer sur vraiment les points importants pour toujours dans cette optique de sauvegarder et de simplifier les choses au maximum pour tous ceux qui essayent de faire vivre ces grosses maisons.
Des grosses maisons, c'est vraiment des maisons. Oui, alors donc, le rapport entre la... demeure historique et les audacieux.
Alors, tout simplement, les audacieux sont...
c'est nouveau ? C'est quoi ? C'est quoi ?
Ça fait, je dirais, à peu près 4-5 ans que le groupe des audacieux s'est distingué, mais il est tout à fait intégré dans la demeure historique. C'est juste, on va dire... Enfin, je ne suis pas sûre que le terme soit tout à fait exact, mais comme un petit peu un club.
Intérieur.
intérieure à la demeure historique. D'accord. Donc voilà, exactement. Et ça permet, en fait, à nouveau, il y a 2 séminaires par an, il y a très régulièrement des visioconférences, vous voyez, très appliquées. Là, récemment, on en a une, par exemple, sur les boutiques de château. Donc, on a eu un exemple, un cas concret, voilà comment ça se passe à tel endroit, voilà les points qui pourraient être améliorés. Voilà. Ça peut être ce genre de sujet, ça peut être, par exemple, on a eu la thématique des mariages, comment avoir une meilleure offre, quels sont les points importants, qu'est-ce que les gens recherchent davantage aujourd'hui, voilà, les combos gagnants un petit peu. Donc ça peut être des visios, ça peut être des séminaires, ça peut être... mais ça vient très régulièrement. Là, on en a une prochainement à la fin du mois sur les associations Les Amis du Château 2. Et ça, on est justement, nous, ça tombe parfaitement bien dans la logique où on se dit qu'il faut qu'on monte cette association pour pouvoir encadrer des bénévoles qui viennent nous prêter main forte pour, par exemple, bah, notre fameux grand week-end médiéval du 8-9 août. On aura besoin de renforts, même pour aider les gens à se garer dans les grands parkings, enfin tout ce genre de choses.
Vous attendez combien de personnes ?
Alors écoutez, vraiment, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire.
Mais vous, vous avez fait quand même un équilibre budgétaire. Comment vous faites
Alors, on a une association d'amis qui gère ce pôle-là. Donc, ils ont l'habitude d'organiser ce genre d'événement. Donc là, franchement, on a complètement délégué sur cette partie-là et on laisse les pros à la manœuvre. Et nous, on se contente de les accueillir.
D'accord.
Voilà.
Et vous ne faites pas encore de mariage ?
Alors, non, on n'en a pas encore fait, mais ça fait partie des possibilités lieu. Voilà, ouais, on a une grande salle aujourd'hui qui est avec une zone traiteur, donc qui serait tout à fait... Après, on privilégie toujours nos visites. On ne veut pas que ça soit pendant le... Ça ne sera forcément pas en juillet et août.
Évidemment.
Pour que les gens sachent, on est ouvert en juillet.
Mais dans quel cadre
août. Voilà. Voilà, donc après, ça peut être des mariages avant la période estivale ou après. Effectivement, ça fait partie des projets. Tout à fait. Et donc, je vais vous parler des audacieux parce que là encore, on est dans cette même logique où on fait une espèce de brainstorming permanent sur les bonnes pratiques.
Ne parlez surtout pas.
En anglais, mon Dieu, ça va faire exploser le serveur.
Voilà, le serveur de Radio Courtoisie.
Il y a Jean Ferré qui va se pointer dans le studio directement pour dire « Ah, ça va pas du tout, Stéphanie. »
S'il était encore là, oui, mais là, vous êtes en train de le faire retourner dans sa tombe, là.
Alors, donc, la confrontation finalement d'expériences,
si
on pourrait dire
bien,
ça comme ça.
Si vous voulez bien, voilà.
Voilà. Où chacun met en avant, explique ce qu'il a mis en place, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc ça, c'est vraiment très, très, très porteur. Ça, c'est une pépinière, on va dire, d'idées. Et voilà, donc ça, on est très, très content de aussi participer d'être membre aussi de ces audacieux. Très précieux.
Oui, très précieux. Alors, quel est votre prochain projet pour ce château, indépendamment des animations ? Vous avez une restauration particulière, parce que vous m'expliquiez que vous aviez donc un colombier extérieur, vous avez des bâtiments annexes, qui sont dans une ancienne ferme, etc. Tout ça tient le bout et la chapelle, est-ce que vous avez un projet un peu important, mirobolant
Alors, mirobolant, on a plein de projets partout, en fait. Et quand je vous dis qu'on a plusieurs fers au feu, c'est vraiment, au sens littéral du terme, on est vraiment un peu sur tous les fronts. Notamment, par exemple, sur le potager. On a un grand potager clos de mur de 2 hectares, donc c'est quand même XXL comme dimension. Et aucun plan d'archives, aucune possibilité de retrouver quoi que ce soit sur place, parce qu'on sait que justement les élèves de la ferme-école ont utilisé cette zone-là pour faire des grands travaux de drainage du sol, donc on creusait à plus d'un mètre, enfin vraiment on pelversait, il n'y a pas d'espérance de trouver la moindre trace archéologique qui puisse nous renseigner, comme ils ont pu faire dans les jardins du Cosscro par exemple, pour faire ressortir le schéma initial du potager. Et alors donc on a fait un partenariat avec l'école du potager du roi à Versailles.
Bravo, ouais. Voilà. Et peut-être Madame de Curel a son château dans l'Essonne. Non, vous ne connaissez peut-être pas. Elle a un potager. Enfin, la famille Curel a un très beau potager qui fait 1 hectare et qui est Claude Mur aussi.
Ah oui.
Mais on en reparlera.
Oui, oui. Non, mais il y a beaucoup de très beaux potagers en France. Et alors là, le
château
projet...
de Borgard. Château de Borgard. Et là, vous avez un potager. Voilà.
Ah oui, oui, oui.
C'est par relation que les choses se font. Mais là, vous me dites le potager du roi, donc...
Le projet, c'était de leur... Alors, ils sont venus 3 fois sur place, ils ont fait des relevés de
ça
terrain.
Ça les intéressait.
Ah, ils étaient passionnés par le sujet.
Bravo.
Et puis, il y a un beau terrain de jeu, j'allais dire.
Oui, c'est ça. Oui.
Et l'idée, c'était d'arriver à proposer, justement, un projet d'implantation d'un nouveau potager, alors vraiment en fonction de ce que voudrait bien imaginer, en sachant qu'ils sont très divers, chacun de ces... Il y en a beaucoup qui sont en réorientation professionnelle, donc il y avait aussi bien des architectes, c'est quand même assez... Il y avait un promoteur, enfin très... une jeune femme chinoise, alors elle qui me disait que le château était très feng shui. Alors, je ne sais pas si le serveur va sauter, dire, oui, parce que là, si je me mets à parler chinois...
Il va sauter, si vous voulez bien.
Alors, j'explicite. Feng Shui, c'est le côté zen, c'est le côté... Elle m'expliquait que l'empereur de Chine choisissait toujours ses palais dans impériaux au pied d'une colline, entourée d'eau, dans la configuration en fait, que l'on a à Trécesson, avec ce même type d'orientation par rapport aux points cardinaux. Donc elle m'a dit, le château est complètement... Bref, donc j'ai la satisfaction de penser que l'empereur de Chine pourrait venir résider à Trécesson. Voilà, donc ça c'est un beau projet, c'était un an de... Là c'est en train de se finaliser. Voilà, on avait fait ce même type de projet avant avec l'ESA d'Angers, qui est l'école supérieure d'agriculture d'Angers, avec des élèves infographistes. C'était des projets qui étaient intéressants, mais qui n'étaient pas encore suffisamment... voilà, on n'a pas eu de coup de cœur pour se dire tiens, on va partir sur ce projet-là. Parce qu'après, une fois qu'on aura un projet bien ficelé, il faut qu'on arrive à le, entre guillemets, le vendre, enfin à le faire accepter par les monuments historiques, parce que même la terre, les parcelles de terre du potager sont classées. Je ne sais pas si vous voyez, on est vraiment sur le niveau...
Oui,
top. Au-dessus, c'est le soleil.
Au-dessus, c'est le soleil, en effet.
Et alors sinon, il y a quand même un gros détail dont on n'a pas encore parlé, c'est l'ADN du château, en fait.
Oui.
Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle.
Ah mais comment non, mais on est bien parti pour...
Le Trécesson est censé être le château le plus hanté de Bretagne. Donc, alors, on a hérité de ce titre comme ça. Nous, on n'aime pas du tout l'esprit Halloween, côté un peu vraiment dans lequel on ne se reconnaît pas du tout. Et donc, on a essayé vraiment de gommer toute cette partie-là qu'on trouvait très presque un peu gênante finalement, et qui attire énormément de gens en fait. Beaucoup de gens viennent pour en nous posant des questions. Est-ce que vous avez eu des phénomènes bizarres? Est-ce que vous avez vu les revenants? Parce que donc on a des joueurs de cartes qui apparaissent dans la chambre des revenants, on a des châtelaines mortes qui circulent dans le château, on a beaucoup d'histoires. On a un moine sans tête, on a un chevalier qui part en croisade et puis tous les soirs il doit ramener sa nourrice qu'il ramène, enfin bref, beaucoup d'histoires. Et donc ces gens-là, on les trouve un peu encombrants parfois.
Oui, non, mais c'est pesant parce que c'est dans la nature de l'inculture d'aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Le spirituel étant chassé, il revient de façon mystico-dingo. Et alors, on s'est quand même dit au bout d'un moment, ça fait partie de l'ADN du château, il faut qu'on fasse avec. Et alors, on a créé une animation avec un hologramme dans une pièce du château où en fait un personnage qui a vraiment existé, qui s'est caché pendant la Révolution pendant 18 mois, hébergé par ce brave Sivry, Bourrel, a vécu 18 mois. Donc, alors il s'agit de deux Fermont des Chapelières, qui était donc un convaincu révolutionnaire et qui a eu le mauvais goût de voter contre la mort du roi. Et alors, tout bon révolutionnaire qu'il était, il avait quand même du flair et il a senti que ça ne passerait pas très bien vis-à-vis de ses collègues les plus acharnés. Et donc, il est allé voir tous ses camarades qui avaient voté comme lui contre la mort du roi en leur disant, vous savez, de nuit, il est allé les voir en disant, il vaudrait mieux qu'on quitte Paris, là, qu'on se fasse un peu oublier. Et alors, les autres, mais non, t'inquiète pas. Alors, tous les autres ont été guillotinés, sauf lui, qui est parti en pleine nuit avec son chien et son fusil pour se réfugier à Trécesson. Et donc, on raconte un petit peu... alors, évidemment, c'est un acteur qui a été filmé sur fond vert. L'hologramme, c'est en fait une hélice qui tourne très, très vite avec une projection d'image. Donc, ça fait un effet un peu comme ça, flouté, un peu de spectre.
Oui.
Et le personnage raconte... son stress, son angoisse à guetter chaque petit bruit, etc., pour en fait déjà faire réaliser aux gens que c'est pas forcément toujours mieux avant, comme on entend souvent dire, ah avant c'était merveilleux, c'était le paradis. Non, la Révolution, ça fait partie des pages sombres et peu réjouissantes, contrairement à ce qu'on lit dans certains manuels d'histoire. Et puis on leur met quelques petits chiffres à la fin sur le nombre de gens guillotinés, en montrant que c'est loin d'être que des aristos. Il y a eu beaucoup de gens du peuple qui ont été coupés en deux. Voilà. Donc voilà, une façon de faire un peu de... entre guillemets, de retrouver ce côté hanté tout en restant sur les clous de l'histoire. Voilà,
ouais.
Exactement. Mais on est beaucoup, vraiment, on est très sollicité par ce côté-là. On a même BFM Télé qui nous a demandé de venir pour passer la soirée d'Halloween, à dormir dans le château, à s'amuser à se faire peur, oh là là, etc., ouais. etc.
Ils ne sont pas tombés sur le très bon château, là.
Non. Ils ne sont pas tombés sur la bonne personne, surtout.
Le bon château, peut-être, mais la bonne personne, voilà, sûrement pas. Bah, je vous félicite, Stéphanie. On va s'arrêter deux petites minutes. Après ce bel exposé, on va poursuivre notre émission Art Bâton Rompu. Aujourd'hui, nous parlons du château de Trécesson avec Stéphanie de Saint-Léon, propriétaire avec sa famille de cette belle propriété depuis 2022. Nous allons faire une petite pause donc avec un contemporain de Pachelbel, un petit peu plus antérieur, puisque nous parlons de Johann Joseph Fuchs, qui était un compositeur autrichien qui était né à Hintersfeld, près de Graz, en Styrie, il est mort le 13 février 1741, il était né en 1660, il est d'une famille de paysans pauvres, et on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles il a pu sortir de son milieu d'origine. Il étudie à l'université jésuite de Graz en 1680, et ensuite, il obtient l'autorisation et les subsides impériaux qui lui permirent de se rendre en Italie auprès de Pasquini, entre autres. Il travaille dans différentes églises, maître-chapelle à droite et à gauche. Toujours est-il, c'est qu'on va passer un élément de Grandus ad Parnassum. Merci, Benoît. Thank you. Bien. Chers amis, nous poursuivons et nous allons achever d'ici une dizaine de minutes notre émission Art Bâton Rompu. Je suis donc à vous rappeler que nous sommes avec Stéphanie de Saint-Léon, propriétaire avec sa famille du très beau château historique de Trécesson. Je vous engage à y aller parce que Stéphanie nous a très bien développé la situation de cette propriété, à la fois historique et aujourd'hui vers un futur audacieux, c'est le cas de le dire, puisqu'on parlait aussi des audacieux du patrimoine, qui est une branche affiliée à la demeure historique. Je vous disais d'aller voir cette propriété qui est effectivement pas très loin de Guerre, la forêt de Brocéliande, en Bretagne, bien sûr. Vous êtes à 4 heures, n'est-ce pas, Stéphanie? Un bon 4 heures.
Oui, c'est ça, un peu moins de 4 heures.
Un peu moins de 4 heures, voilà, un peu moins de 4 heures.
Et ben, mais un endroit très central, effectivement, quand on passe en Bretagne, on passe la 4 voies qui fait Rennes.
Mais on passe à 4 voies, mais on ne s'arrête pas.
Oui, et là, maintenant, il faut à 3 km, vous pourrez vous arrêter.
Il faut la prendre, dans l'autre sens et s'arrêter à Trécesson. On continue, Stéphanie. On va parler peut-être encore de ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivée. Vous avez consolidé, non pas les murs, mais un certain nombre de choses. Et puis, vos prochains projets. Vous m'avez parlé d'une petite chapelle qui est en bon état, qui datait du 12e à l'extérieur, à quelques arpents, on va dire ça comme ça, dans la forêt. Mais vous avez aussi une chapelle intérieure et puis un pigeonnier.
Oui, en fait, il y a beaucoup de bâtiments tout autour. Ça ressemblerait presque à un hameau. Voilà. D'ailleurs, ça signe bien le
c'est conservé comme tel.
Le château est très ancien parce qu'au XVIIe, XVIIIe, on va éloigner les communs. On ne veut pas les avoir sous le nez pour ne pas entendre les bruits, les odeurs. Voilà, exactement. Tout un art de vivre différent se met en place. Et là, on a vraiment tous les corps de communs très, très proches du château. Et alors, on a effectivement plusieurs... Alors, vous savez, c'est très compliqué. Enfin... très compliqué. Disons, pour les monuments classés, on a un type d'architecte qui doit être, avoir tous les galons, avoir travaillé un certain temps sur d'autres bâtiments classés. En revanche, pour ce qui est inscrit, c'est un petit peu plus léger. Donc, en fait, on a des architectes différents pour les différentes zones.
Et, oui, ce qui alourdit un petit peu le travail, quand même. Hein.
Oui, mais d'un autre côté, ça donne du travail à tout le monde.
Voilà. Bravo.
Et on peut
important.
Les relancer plus régulièrement. Donc, c'est pas plus mal non plus. Et donc, on a effectivement restauré des fermes pour éviter qu'elles se dégradent ou qu'elles soient squattées, parce que Dieu sait ce qui peut arriver quand les bâtiments ne sont pas entretenus. Donc on a deux fermes qui sont aujourd'hui complètement en état. Ce très grand bâtiment, donc ferme-école dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment XXL, parce qu'on est plutôt je pense au sol à 800 mètres carrés, c'est très très grand, sur 4 niveaux. Et donc là, on a une architecte qui a évalué les problèmes de structure, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut qu'on revoie sérieusement. Il y a un mur qui a vraiment du fruit, comme on dit.
Oui, ça.
Et donc, il faut qu'on s'occupe plus là de sauvegarder, de restaurer dans le premier temps les parties vraiment avant de savoir exactement quel projet derrière on mettra en place. Vous savez, les normes ERP sont très compliquées et donc on pensait pouvoir faire peut-être des logements au-dessus, mais non, en fait, vous ne pouvez pas, si vous faites une salle de réception, avoir des logements au-dessus parce qu'on va imaginer que potentiellement vous allez faire brûler peut-être les gens qui dorment au-dessus sans se rendre compte qu'il y a le feu. Enfin bref, c'est très très lourd. Donc là, je pense qu'il faudra qu'on fasse appel aussi à un cabinet spécial. Spécialiste en ERP. Il y a comme ça cette lourdeur qui peut être un peu oppressante par moment. Et on a l'impression un peu d'être dans un ascenseur émotionnel. On passe de grandes joies quand on réussit une belle restauration. On est très content. On a un dossier qui vient d'être validé sur des travaux. On est tout content. Et puis après, on a vraiment des périodes plus rudes où on tire la queue du loup
une administration une très lourde. Voilà.
Et une administration effectivement très pesante. Parce qu'un des prochains défis qui nous pèse vraiment beaucoup sur le moral, j'allais dire presque, en tout cas sur les épaules, c'est la mise en conformité de l'assainissement du château.
Oui, ça ne se voit pas, mais c'est, par contre, dans le porte-monnaie, c'est ce qui coûte le plus cher.
Oui, voilà. Alors, et surtout dans un schéma où tout a été fait pour que l'eau s'écoule directement dans les douves, rien n'est prévu pour que ça parte vers l'intérieur, et à l'intérieur on a des boiseries partout, donc comment faire descendre des descentes de PVC affreuses dans des salons, ah oui, parce qu'on a quand même la particularité d'avoir le seul salon en boiserie Louis XVI d'époque de Bretagne, parce que les Trécessons étaient très à la mode. Oui. Il faut croire, à l'époque. Et en fait, avec l'arrivée de la Révolution, le style, entre guillemets, Louis XVI n'a pas eu le temps de se répandre, finalement, en province, en tout cas en Bretagne. Et donc ça, c'est une des originalités importantes de Trécesson, c'est son fameux salon.
Et puis, Vous avez aussi une salle voûtée qui, avec une décoration de peinture murale assez importante, puisqu'on parle de, des amours de Renaud et d'Armide.
Oui, alors ça, c'est dans l'ancienne étuve. L'étuve, alors qui ne se visite pas, sauf dans des visites VIP tout petit comité, parce que c'est vraiment un espace restreint, voilà, qui est très intéressante parce qu'en fait, on a toujours la partie arrière de manutention de l'eau avec une grande pierre qui fait un peu une forme de plongeoir avec un trou au milieu dans lequel on pouvait mettre une poulie pour aller chercher l'eau de, des douves avec un système pour faire chauffer l'eau à côté et des grandes cuves avec des systèmes de canalisation intérieure dans les pierres pour créer en fait de la vapeur parce que c'était le sauna de l'époque tout simplement, ces étuves. Et alors ça, ça permet un peu de tordre le cou à cette réputation d'un Moyen-Âge obscurantiste où les gens ne se lavent pas, où on est vraiment sur un...
C'est faux, parce que quand vous allez à Rome, vous avez aussi effectivement toutes ces citernes. Et...
Bien sûr, et effectivement, ces étuves viennent de la mode gallo-romaine, tout simplement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'enluminures aussi au Moyen-Âge. On voit les gens dans des grands baquets en train de se nettoyer. Enfin, c'était quelque chose de très... D'ailleurs, sans doute, ils étaient... C'était des hommes beaucoup plus propres peut-être que, qu'à la Renaissance, mais les hommes de la Renaissance leur ont fait une légende noire. Et donc on s'intéresse aussi dans les visites à tordre le cou comme ça à certaines idées reçues. Aussi par exemple, quand on visite le pigeonnier, on leur montre un petit peu ces législations pleines de bon sens que les hommes du Moyen-Âge avaient mis en place pour que le nombre de pigeons ne fasse pas de prédation sur les champs des voisins. Donc on n'avait pas le droit de faire le nombre de boulins qu'on voulait. C'est les boulins, c'est ces petites infractuosités pour les pigeons. Il y avait une réglementation, parce que voilà, on avait juste du bon sens. En fait, c'est merveilleux de redécouvrir ce bon sens.
Mais vous avez ce pigeonnier qui comporte quand même 1800 boulins. Ça représente une somme importante de superficie, puisqu'un boulin a été fait, si je vois bien les choses, pour nicher un pigeon qui correspond à 1,5 hectare. Ils font donc 2 boulins pour une superficie d'un hectare. Oui. À l'époque. Et compte tenu qu'il y a 1800 boulins, la surface du domaine était à l'origine superficielle en 900 hectares, a priori. Et il poussait toujours une grande échelle, et ça, vous pouvez en parler. Je pense que c'est encore en bon état général.
Oui, il est en très bon état, vu qu'il a, il fait partie des restaurations qui ont lieu.
Vous avez
donc
fait
en 2013.
Aussi des toitures.
Alors nous, on n'y a pas touché, ça, c'était les derniers travaux qui avaient été faits par les propriétaires précédents. Et oui, vous avez raison. Et alors, je précise même que ces boulins qui déterminent le nombre, la superficie exacte du domaine, uniquement, on parle de terre arable dans laquelle on pouvait pousser la charrue. Ne rentre pas dans les mats, tout
des
ce
forêts.
Qui est landes, forêts. Or, on en a beaucoup aux alentours. Donc, en fait, ça donne vraiment...
L'importance.
Oui.
Et pourquoi vous avez des bâtiments de ferme importants, c'est pour
c'est ça,
tout... entre autres.
Exactement.
Et le pigeonnier est resté en bon état général.
Il est en très bon état général. Il y a même
le petit larmier
son échelle
est
tournante
là.
À l'intérieur qui permettait au préposé de faire le nettoyage comme ça sur toute une longueur en faisant tourner son échelle au fur et à mesure. Et alors, vous savez d'où vient l'expression se faire pigeonner, bien sûr.
Alors, non, ça, c'est pas une expression anglaise, donc on peut en parler.
On peut en parler, très bien. Eh bien, ça vient forcément de cette pièce, le pigeonnier, parce que vu qu'il y avait cette réglementation très contraignante sur le nombre de boulins qu'on avait le droit de faire, eh bien, par exemple, quand on voulait épater une future belle famille, on créait des faux boulins en rajoutant notamment au niveau de la charpente. Et comme ça, quand on faisait négligemment visiter son pigeonnier, on pouvait faire croire qu'on avait beaucoup plus de surface qu'on en avait en réalité, d'où l'expression « se faire pigeonner ».
Bravo, c'est une belle expression. Ben écoutez, là, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que vous fassiez plumer non plus, maintenant.
Ah oui, non,
hein
non, non, non,
voilà,
non.
C'est
non.
Pas le moment.
Alors, en parlant de se faire plumer, on a quand même un beau projet, là, on a
lancé. Voilà, je voulais vous demander, pour terminer cette belle émission, parlez-nous effectivement de votre projet.
Alors, on a déjà fait restaurer le vitrail de la chapelle.
Ah.
On avait fait appel à un mécénat porté par la demeure historique. Et donc ça, c'est fait, c'est bien en place. Et là, le projet, c'est de faire reposer le lambris de la chapelle. En fait, il a été déposé au moment justement de l'étude préalable dont je vous parlais tout à l'heure, quand il a fallu examiner l'état précis de cette charpente, qui est en bon état. Et au moment de reposer les lambris, le charpentier m'a dit, écoutez, ils sont tellement pleins de vrillettes que vraiment, ça n'a pas de sens de les reposer. Parce que grand-mère Alice les avait fait poser en pain. Mauvaise idée, elle aurait mieux fait de mettre du chêne. Mais merci à elle de s'en être occupée quand même.
C'est du chêne ou du châtaignier?
Alors, et là, le projet, c'est de
ou
mettre
du noyer,
en chêne.
Pardon,
ça
du
sera
noyer.
Du chêne.
Du chêne.
Ils seront reposés en chêne. Et du coup, on a fait à nouveau un mécénat avec la demeure historique. Donc, si certains de vos auditeurs veulent nous soutenir, eh bien voilà, c'est
qui viennent
une façon
d'abord vous voir, et puis
ça.
Après, ils feront un chèque.
Voilà.
Parce
exactement.
Qu'ils verront sur place exactement
ils
ce qu'il en est.
Ils vont voir exactement. Le problème de ce lambris manquant, c'est qu'en fait, on a des chouettes, des dames blanches qui rentrent sous les toitures et qui viennent faire des dégâts terribles. horribles avec leurs excréments. Alors vous imaginez, dans une chapelle, ça, vraiment, ça ne convient pas.
Pas du tout.
Donc il est grand temps de refermer tout ça soigneusement. Et donc voilà, donc ceux qui veulent, n'hésitez pas à soutenir le château de Trécesson en faisant un chèque à l'ordre de la demeure historique. Hein. C'est la demeure historique qui porte ce projet, avec en fléchant château de Trécesson. Et comme ça, ça viendra abonder ce fonds qui nous permettra de reposer ce lambris.
Moi, je vous conseille d'aller, je vais y aller d'ailleurs, parce que j'ai eu une occasion d'y aller il y a un mois et demi, et puis malheureusement, les projets se sont estompés. Mais je vous engage à aller à Trécesson, voir cette belle propriété, et comme dit Stéphanie de Saint-Léon, propriétaire de cette belle propriété, avec sa famille, à faire un chèque après. On a des déductions fiscales, bien
voilà,
sûr.
Voilà, c'est ça, bien sûr, bien sûr.
Classique.
Exactement, le classique.
Très bien. Ben, je remercie Stéphanie de Saint-Léon.
Merci Olivier de cette invitation.
Et puis, si vous êtes content de cette émission, en ce qui concerne les châteaux à visiter, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans 4 semaines. Merci Stéphanie.
Merci Olivier, au revoir.
Vous venez d'entendre le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine Art Bâton Rompu, dirigé par Olivier Doutrebente, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 19 mai 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.